Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Vous avez été nombreuses justement à demander un parcours de femmes qui lâchent le confort du salariat entre guillemets pour entreprendre. Elle est là pour nous raconter en détail son parcours. On y va.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Kawtar Janah, bonjour. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Chbark lala Kawtar.
Bonjour Yasmine, je me sens très bien, alhamdoulilah. Merci de m'avoir invitée à prendre part à votre émission qui rend hommage aux femmes marocaines et africaines aussi.
Merci infiniment Lala Kawtar. Le plaisir est pour moi et pour toutes les femmes qui nous suivent actuellement et pour les hommes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une belle audience masculine qui écoute tout ce que les femmes africaines ont à dire dans ce podcast de Femmes d'aujourd'hui. Alors Lala Kawtar, avec vous, et justement vous allez parfaitement répondre à cette question parce que j'ai reçu beaucoup de demandes dans ce sens, Yasmine essaie de nous trouver des femmes qui ont sauté le pas du salariat vers l'entrepreneuriat. Et vous, justement, Kawtar, vous incarnez parfaitement ce switch. D'abord, avant de nous raconter l'histoire, est-ce que la passation, le passage entre le monde du salariat et le monde de l'entrepreneuriat a été simple, évident?
Alors écoutez, moi quand on me pose cette question, je réponds toujours que c'est un périple, c'est comme un accouchement en fait. Sauter le pas du salariat avec son confort financier en quelque sorte vers une certaine indépendance financière, une certaine liberté aussi demande beaucoup de patience, de passion, de travail. Et ce n'est pas toujours simple. La terre n'est pas aussi plate. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais ça se travaille. Ça se travaille mentalement. Ça se travaille aussi en ayant le soutien de l'environnement, mais ça se travaille aussi en faisant des économies pour pouvoir faire face justement aux aléas qui peuvent se présenter à nous.
Alors justement, est-ce que, vous l'avez dit, le confort salarial et plus de liberté, d'indépendance, justement, qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne?
Ah, une question qui est très très difficile. En fait, j'ai commencé par les pertes pour laisser toute l'ampleur aux avantages. Écoutez, on perd déjà le salaire qui tombe chaque mois, cette assurance financière de se dire écoutez, je suis, quelles que soient les circonstances en quelque sorte, je vais percevoir un salaire financier qui va tomber chaque mois. Ça, je pense, à mon sens, c'est le plus grand confort qu'on perd en entreprenant ce processus. Par contre, ce qu'on gagne énormément, dans la mesure où, c'est vrai, au début, on n'a pas ce confort financier, mais on gagne en termes de liberté, on gagne en termes d'épanouissement et on gagne aussi en termes de passion, de contact, de richesse sur le plan personnel et professionnel. Et je pense que c'est là l'ampleur de l'entrepreneuriat.
Alors justement, on va mettre notre audience dans le contexte. Vous êtes docteur en nutrition, vous avez fait de nombreux passages par des organismes de coopération internationale. Vous avez ensuite intégré une université en tant que responsable de la filière nutrition et diététique. Donc vous avez un bon et beau parcours et long parcours dans le monde du salariat. Et puis ensuite, vous vous êtes décidé à vous lancer dans votre projet, votre propre projet, passer à l'entrepreneuriat, projet en nutrition. Je vais me permettre de vous poser une question très intime, Lala Kawtar. En général, pour beaucoup de femmes que j'ai eu l'honneur d'interviewer, ce genre de décision se fait à un certain cap de la vie, un certain moment de la vie qui, subhanallah, coïncide en général avec la fin de la trentaine, le début de la quarantaine. Certains l'appellent comme crise de la quarantaine, certains l'appellent comme crise de remise en question, crise de milieu de vie. Chacun, comment il l'interprète et comment il la nomme. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que ce besoin de liberté, après ce parcours qui est riche quand même. Vous savez, j'imagine quand on fait partie de certains organismes internationaux, c'est de belles rencontres internationales, c'est des forums, c'est des congrès, c'est toutes ces choses-là aussi qu'apporte ce genre de plateforme. Ça n'avait plus de sens.
Oui, je vous remercie pour la question. Effectivement, pour répondre direct, oui, ça coïncide avec justement l'approche de la quarantaine, etc. Mais en fait, ce que je voudrais souligner, c'est que l'idée d'accoucher de mon propre projet n'est pas venue du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui a émergé rapidement, etc. Mais c'était un processus de maturation, de laisser mûrir, etc. Effectivement, après mon doctorat, j'ai eu la chance d'intégrer un organisme, des organismes internationaux, où j'ai pu justement apprendre sur l'entrepreneuriat, sur la gestion de projet. J'ai pu m'imprégner aussi de ce processus par lequel passe une idée de projet pour sa réalisation. Et après quelques années, j'ai eu le déclic, c'est-à-dire allier mes connaissances académiques que j'ai acquises durant mon passage doctoral sur la nutrition et aussi mes aptitudes en tant que gestionnaire et de lancer mon propre projet. C'est là où j'ai commencé à avoir cette idée, bien avant l'approche des quarantaines. Mais la vérité, il a fallu laisser mûrir cette idée quelque temps pour qu'elle prenne forme. Et entre-temps, justement, j'ai intégré une université internationale en tant que responsable de filière. Et c'est vrai, j'ai eu de belles rencontres, de belles collaborations que je garde jalousement et soigneusement. Et à un moment, effectivement, à l'approche de la quarantaine, il y a l'excitation de lancer mon propre projet. Projet s'est accaparé de moi. Voilà.
Mais alors, justement, Kaoussa, je vous ai interrompu. Cette excitation, est-ce qu'elle faisait face à une forme d'ennui professionnel ?
La vérité, non. Une forme, je voulais m'épanouir encore plus. Okay. Parce que, en fait, je savais
peut-être.
Que... différemment, et je savais que j'avais beaucoup de choses à apporter et surtout dans un créneau qui n'est pas vraiment servi, qui est l'enfance. Et donc du coup je me suis dit c'est une passion de vouloir s'intéresser à l'éducation nutritionnelle des enfants, mais pas que, et d'en faire un projet, un projet de vie. Et donc du coup voilà, je me suis lancée, mais il faut dire que c'est aussi grâce au soutien de mon mari aussi, parce que il faut le dire, on s'approche de la moitié de sa vie, on fait le bilan de sa moitié de la moitié de sa vie, on se dit mais quand est-ce qu'on va pouvoir se lancer si on ne se lance pas maintenant, tout de suite, pour pouvoir récolter, apprécier les résultats. Et en fait, la vérité, mon mari m'a beaucoup aidée dans ce processus justement de conversion.
Alors, Kaoussa Janah, justement, on l'a dit, d'abord docteur en nutrition, un passage par les organismes de coopération internationale, chef de filière nutrition et diététique au sein d'une université internationale. Qu'est-ce que vous avez utilisé ensuite pour recycler et lancer votre propre projet, votre projet personnel? Et en même temps, c'est quel aspect de ce parcours, finalement, que vous avez développé en entrepreneuriat?
Alors, en fait, au départ, j'avais des connaissances académiques, c'est-à-dire les données scientifiques sur tout ce qui est nutrition et tous les aspects qui touchent la nutrition et l'hygiène de vie d'une manière générale. Mais vous savez, faire émerger un projet ou accoucher d'un projet ne peut pas venir d'une simple idée de projet. Il faut le travailler, il faut une certaine compétence, une certaine technicité qu'on n'a pas eu forcément durant ce parcours académique. Et donc, du coup, je pense que le point fort pour tout entrepreneur, c'est d'allier tout ce qui est connaissance académique sur le sujet, mais aussi avec tout ce qui est technicité en termes de management de projet, de financement de projet, de partenariat, de développement de partenariat, ce qui est très important justement pour donner naissance et faire croître son idée.
Alors justement, vous avez parlé du rôle important du conjoint. Dans notre société marocaine, africaine, maghrébine, quand on est une femme mariée, qu'on veut changer de cap, parce que changer de cap professionnel, c'est aussi changer de cap de vie, le soutien d'un homme, de l'homme, de sa vie est important. Sans ce soutien, on peut pas réussir, parce que sinon c'est rentrer en confrontation avec la personne avec laquelle on partage sa vie, non ?
Alors,
l'accord et l'aval, peut-être.
En fait, je dirais que effectivement, une femme déterminée, rien ne l'arrêtera. Ça dépend maintenant des obstacles qu'elle va rencontrer. Et c'est sûr, avoir quelqu'un de sa vie sur qui elle peut se reposer, vers qui elle peut revenir, surtout dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments de joie et de réussite, est très important, et ça facilite énormément le processus. Moi, je me considère très chanceuse d'avoir justement le soutien de mon mari, qui au contraire n'avait pas de doute concernant justement ce passage et cette conversion, et avoir justement ce soutien moral et psychique est très important pour qu'une femme perce dans notre contexte. Justement, ça va justement la décharger d'une grande responsabilité morale, financière qu'elle pourrait avoir envers sa famille, envers elle-même et envers son époux, effectivement.
Absolument, absolument. Et décharger aussi d'une grande pression morale aussi, parce que si ça se passe mal à la maison à cause de ça, comment peut-elle se concentrer dans la gestation de ce projet. Alors justement, vous avez parlé du volet financier, c'est là aussi où le bât blesse pour beaucoup. La préparation, elle doit se faire comment, selon votre expérience à vous, Kawtar ?
Alors la préparation...
On économise combien par mois ? Et comment on l'utilise après ?
La question qui est assez difficile, mais l'idée c'est de mettre quelque chose sous la main pour faire aussi au mois durant lesquels on n'aura pas assez de finances. Mais l'idée, en fait, l'idéal, je sais que l'idéal n'existe pas, le parfait n'existe pas, c'est que d'avoir déjà un contrat sous la main ou une promesse déjà avant de se lancer. Déjà, on commence avec une certaine confiance, une certaine latitude, une certaine liberté financière pour justement se lancer et voilà, avoir des revenus, parce que c'est important aussi. Maintenant, préparer son idée de projet aussi, c'est préparer ses finances, c'est-à-dire se dire, c'est une gestion financière, c'est une compétence qui doit s'acquérir, et de dire, de prendre son gain mensuel et de dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais mettre de côté pour lancer. À quel montant je dois aspirer pour que je puisse me lancer d'une manière tranquillement.
À l'aise.
Mais aussi à l'aise, exactement. Et aussi, quelles sont les ressources humaines et financières que je pourrais mobiliser pour justement me lancer correctement.
Mais parce qu'en fait, vous êtes consultante. Donc on va dire, ce que vous vendez, c'est votre matière grise. À ce moment-là, l'investissement est moins important. On n'avance pas un capital.
Exactement. Donc, tout au départ, on n'avance pas un capital pour exercer, c'est-à-dire en tant que consultant. Mais par contre, avoir quelque chose sous la main est très important, parce que de toute façon, on n'aura pas peut-être le même confort financier mensuel qu'on avait durant le salariat. Et pour faire face aussi à ces obligations, il faut aussi avoir un certain capital qui va nous permettre de survivre, ne serait-ce que les premiers mois de la vie entrepreneuriale.
Est-ce qu'on n'a pas un peu, on se sent pas un peu déboussolé les premiers temps, parce qu'avant on était régi par des règles strictes, l'arrivée, la sortie. Là, on est lundi ressemble à dimanche au début. C'est pas perturbant.
Absolument. Tout à fait. Vous avez posé le mot, effectivement, on se sent un peu déboussolé parce qu'on était habitué pendant une certaine période à des repères. C'est-à-dire, on sort à telle heure, on rentre à telle heure on est à la maison, donc on va s'occuper d'autre chose, etc. Mais durant justement l'entrepreneuriat, on est livré à nous-mêmes.
C'est ça.
C'est-à-dire, il faut bien s'organiser, et c'est à nous de poser des limites entre la vie familiale et la vie professionnelle.
Ouais.
C'est très, très important. Et donc, je pense que le mot d'ordre, c'est l'organisation. Au départ, ça peut paraître un peu déboussolant, ça peut paraître... on est un petit peu comme quelqu'un qui est en train de courir dans tous les sens, mais qui ne sait pas par où commencer, quand est-ce qu'il s'arrête, surtout quand la passion est là. Et donc du coup, c'est très important de délimiter. Au départ, c'est pas si évident parce qu'on veut donner, on a la niaque qu'on veut, on veut percer, on est passionné. Mais à un certain moment, il faut se poser pour ne pas laisser sa vie professionnelle prendre le dessus sur sa vie personnelle et assurer un certain équilibre. Et donc le mot d'ordre ici, je dirais que c'est l'organisation et puis avoir faire des concessions de part et d'autre, mais tout en gardant en tête l'équilibre entre cette vie professionnelle, cette vie sociale et la vie personnelle. C'est très important.
Donc il ne faut pas avoir peur, en fait, ce que vous nous dites, Kautar, il ne faut pas avoir peur au début si on se sent un petit peu déboussolé, on se sent un peu perdu, c'est normal. On est dans un processus de trouver de nouvelles marques.
Alors, en fait, je dirais que si on n'a pas peur, c'est pas normal, à la base. Oui, parce que on va avoir peur. Ouais. La peur, elle est importante pour nous bousculer, tel que le stress, pour nous pousser à aller de l'avant. Par contre, quand ça s'accapare de nous, c'est-à-dire quand la peur s'accapare de nous et nous paralyse, c'est là où ça devient problématique.
Bien sûr.
On va avoir peur, mais il faut peut-être savoir et essayer de gérer cette peur et de dire c'est normal. C'est normal que je puisse passer par là. C'est normal que je puisse traverser des moments de panique, d'anxiété, de peur, de stress. Mais durant ces moments-là, il faut toujours garder en tête pourquoi nous avons passé le pas. Quelle est la raison derrière? Et c'est très, très important pour qu'on puisse continuer et surmonter et gérer cette peur, parce qu'elle restera toujours là.
Est-ce qu'il arrive parfois que vous ayez encore peur?
Oui, et Dieu merci. Parce que, c'est-à-dire, l'être humain, par définition, il a peur de l'inconnu. C'est comme plonger dans une rivière et des fois, on ne voit pas le bout du tunnel, on ne voit pas le bout de la rivière, on ne voit pas la terre ferme. Et ça, cela fait peur, effectivement. Mais travailler son mindset, travailler sur cette peur ne pourra que nous donner un coup de pouce pour aller encore plus, pour faire de son mieux. C'est ça le plus important.
Alors Kautar Janah, qu'est-ce qui a changé dans votre vie, le avant et le après?
Alors, différentes choses. D'abord, l'épanouissement professionnel. Je suis très passionnée par ce que je fais, les échanges, le contact humain que j'ai durant mes sessions, durant mes consultations. C'est juste impressionnant ce qu'on apprend, que ce soit des enfants, que ce soit des personnes qu'on rencontre, que ce soit des partenaires. Et c'est très épanouissant, certes, sur le plan professionnel, mais ce qui est magique, c'est que ce bonheur professionnel se retentit aussi et impacte le côté personnel dans la mesure où je me sens plus épanouie en tant que femme, en tant qu'épouse et surtout en tant que maman.
Alors, vous avez dû faire des concessions sur votre rythme de vie ?
Oui, ça c'est sûr.
Ouais.
Ça, c'est sûr. C'est-à-dire avoir des dépenses qui sont rationnelles, c'est important. On peut pas se permettre des choses comme avant, surtout durant les premiers mois de vie de l'entrepreneur. Mais en fait, être entrepreneur m'a appris aussi à gérer mon budget, mais d'une manière très rationnelle. Franchement, même si j'ai aujourd'hui, alhamdoulilah, une certaine liberté financière, le côté rationnel est toujours présent et je l'ai développé. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est ce que j'essaie aussi d'inculquer à ma fille.
Ça s'appelle de la maturité financière.
Je pense que c'est ça. Je pense que ne pas succomber à ses désirs à n'importe quel moment, n'importe comment, est très important.
Avoir
très
des
important
priorités, exactement.
Tout à fait.
Certaines ont la chance d'être comme ça de façon innée, d'autres. Moi, vous inquiétez pas, moi je suis comme vous. Hein. Donc je suis en cours de maturation, de maturité financière aussi. Kautar Janah, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui, de nous avoir parlé de votre beau parcours, de votre beau projet de vie et voilà, d'avoir partagé avec nous votre expérience, les hauts et les bas, et à très vite. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Yasmine et merci beaucoup pour cette émission qui rend encore hommage aux femmes marocaines, surtout à leurs efforts et à la femme d'une manière générale. Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.